En ce jour, il y a quelques dimanches, en début de mois janvier, j'avais apporté cette première partie du petit nuage. Et aujourd'hui, j'aimerais terminer cette courte série. Nous avions vu, et permettez-moi de reprendre quelques éléments de ce message, replacer un peu les choses dans le contexte. Nous étions dans un contexte particulier où la sécheresse et la rosée avait cessé de venir sur le pays. Et pour cause, Akab et Jézabel avaient conduit le peuple vers de l'idolâtrie. Ils avaient conduit le peuple à adorer Baal. Aussi, Dieu, pendant près de 3 ans et demi, va fermer les écluses des cieux. La pluie ne va plus tomber. Et je vous laisse imaginer combien ça peut être difficile, chaotique pour une nation qui n'a pas forcément les rivières que nous avons, nous, ou l'eau à disposition. C'est un pays qui dépend vraiment de la pluie. Israël dépendait vraiment de la pluie et pendant près de 3 ans et demi, le peuple n'a pas eu de pluie ni de rosée. À la suite et à la fin de cette période-là, Dieu va appeler son serviteur Élie, va dire « Élie, va voir Akab, trouve-le, dis-lui que je vais faire tomber la pluie. » Alors Élie va se rendre auprès d'Akab et lorsqu'ils vont se retrouver, ils vont avoir cet échange un peu particulier. Et souvenez-vous, lorsque j'en parlais, Élie va présenter les choses d'une façon toute particulière. Il va dire à Akab la chose suivante, « Il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Nous étions restés quelques instants sur ce bruit, parce que ce bruit avait une particularité. Comprenez que si ce bruit était celui de la pluie, Akab l'aurait entendu. Or, Akab ne voyait qu'une seule chose, le ciel d'airain, pas un seul nuage à l'horizon. Alors quel style de bruit, de quoi il y parle lorsqu'il parle d'un bruit qui annonce la pluie? Sans doute qu'il parlait d'un bruit particulier, d'un bruit prophétique, d'un bruit qu'Élie, homme de Dieu, inspiré par l'Esprit, était capable de discerner. Bruit que l'Église est appelée à entendre. Parce que ma conviction, et je l'avais dit déjà la dernière fois, ma conviction, et nous sommes peut-être plusieurs serviteurs de Dieu à le penser, c'est que nous vivons des temps particuliers où Dieu est en train de faire entendre à son Église un bruit de pluie. Ce bruit n'est pas celui de la pluie directement, mais c'est un bruit qui annonce la pluie à venir. Et ma conviction, c'est que Dieu veut répandre sa pluie sur notre génération. Ma conviction est que Dieu est en train de prévenir son Église au travers d'un bruit que le monde ne comprend pas, que le monde peut percevoir comme quelque chose de très négatif. Mais nous, ce que nous en percevons, c'est que Dieu est en train de préparer des temps de rafraîchissement. Amen. Alors oui, il se fait un bruit. Aussi, et c'est ce qui est particulier dans l'attitude d'Élie, cela va se traduire par un comportement, par une réaction. Élie va dire à Akab, certes, il fait ce bruit. Alors Akab, il va lui dire, Akab, monte, mange, bois, prépare-toi, entre guillemets, prends des forces, tu vas en avoir besoin. Parce que si la pluie vient, tu vas avoir besoin de force, tu vas avoir besoin d'être prêt. Et j'ai pris ça personnellement, j'ai pris ça aussi pour l'Église, comme la voix du Saint-Esprit, souvent il est présenté comme, identifié comme cette personne du Saint-Esprit qui parle, et il parle à son Église, il lui dit, si il y a un bruit de pluie qui annonce la pluie, s'il y a ce bruit qui annonce la pluie, alors Église, prépare-toi, monte. Monte dans les chambres hautes, monte vers ton Dieu, cherche sa face, prends des forces spirituelles, bois, nourris-toi, fortifie-toi, car quand la pluie sera là, il ne sera plus temps de se préparer, ça sera trop tard. Alors, Élie va dire à Akab, monte, mange, bois, prépare-toi, fortifie-toi, fortifions-nous, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. La deuxième chose que nous avions vue, et c'est dans la suite de ce passage où Élie va dire à Akab de se préparer. Il est dit, le texte dit, va dire simplement, il y avait ce mais. Mais Élie monta. Et ce mais est juste là pour préciser quelque chose d'essentiel. Quoi que nous puissions obtenir une promesse de la part de Dieu, comme quoi la pluie vient, cela ne veut pas dire que nous devons tomber dans une phase d'attentisme. Par moments, nous pouvons recevoir des promesses de Dieu, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut les attendre patiemment. En regardant le ciel et en disant « c'est quand tu veux Seigneur ». La réalité spirituelle, c'est que quand bien même Élie avait reçu une promesse de la part de Dieu, ça impliquait dans la vie de cet homme de l'intercession et de la prière, une prière fervente. Parce que Dieu avait placé non pas Élie comme un élément spectateur, Dieu avait placé Élie dans ce temps comme un interrupteur spirituel. Permettez-moi de préciser la chose, parce que c'est Jacques qui précise la chose le mieux. Jacques chapitre 5, verset 17 dit « Élie était un homme de la même nature que nous. » Et regardez bien, il est dit qu'il y pria avec instance pour qu'il ne pleut plus, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Verset 18. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Élie n'était pas simplement spectateur, il était activateur, il était l'interrupteur spirituel. Et je crois, mes frères et sœurs, que Dieu a préparé des réserves, Dieu a rempli les écluses des cieux, seulement il nous a placés en interrupteur. Vous pouvez dire amen à ça, c'est une bonne raison. Aussi, ce n'est pas parce que Dieu nous dit que les écluses sont pleines que forcément elles vont tomber toutes seules. Ce n'est pas parce que Dieu nous a promis des choses que finalement nous devons être dans l'attente de voir ces choses s'accomplir. Nous devons rentrer en prière pour les voir s'accomplir. Et c'est ce qu'Élie va faire. Et Élie, il savait qu'il était l'interrupteur choisi de Dieu. Dieu avait mis le courant, il ne restait plus qu'à allumer. Et Élie va le faire. Il va se mettre à intercéder et prier. Et la deuxième chose que nous avions vue, c'est que Élie va rentrer dans un temps de prière intense. C'est ce qu'il est dit d'ailleurs, c'est ce que Jacques va dire, une intense prière. Et vraiment, je voudrais mettre l'accent là-dessus parce que par moments, nous partons dans des combats spirituels, nous partons dans des luttes et dans des temps d'intercession forts sans avoir direction divine. Comprenez, Élie s'est mis à combattre spirituellement parce qu'il avait entendu un bruit qui annonçait la pluie. Et par moments, vous savez, on part directement dans le combat spirituel sans entendre de bruit. Aussi, par moments, merci Seigneur, Dieu répond. Mais quand Dieu ne répond pas, quand nous sommes partis dans l'intercession et que nous ne voyons rien, nous disons « Mais qu'est-ce qui se passe Seigneur? Pourquoi tu ne réponds pas à ma prière ?» Et Dieu pourrait très bien nous dire « Mais ce n'est pas mon temps, ce n'est pas le moment, ce n'est pas ce que je t'ai demandé de faire. » Et par moments, attendre et entendre le bruit de Dieu, par moments, est salutaire pour notre foi, pour nos engagements et pour notre prière même. Parce que quand nous ne voyons pas l'accomplissement de nos prières, ça fait mal. Je poursuis. Le dernier point que nous avions vu il y a trois semaines, c'est qu'Élie, et c'est le troisième point, va prier 7 fois. Et c'est plutôt quelque chose qui doit nous apprendre sur comment Dieu agit, comment Dieu répond à nos prières, parce que par moments, nous avons la direction divine, nous entendons le bruit, pour autant, des fois, nous rentrons en prière et puis nous disons, il ne se passe rien. Mais regardez l'exemple d'Élie. Un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit, discernant les bruits, discernant la parole de Dieu. Un homme inspiré va quand même prier 7 fois pour voir la pluie arriver. Et encore. Et je trouve que c'est pertinent de lire qu'Élie, tout homme de Dieu, qu'il était inspiré de la part du Saint-Esprit, a quand même dû intercéder pour voir la pluie tomber. Aussi, ça doit être un encouragement pour nous à persévérer. Parce que tout Élie qu'il était, il lui a quand même fallu 7 reprises. Il a fallu qu'il prie à 7 reprises pour voir la pluie tomber. Pas si facile de dire amen à ça, j'en conviens. Mais en même temps, c'est une invitation à la persévérance, mes amis. Parce que ce n'est pas parce qu'on prie, c'est pas parce qu'on n'a pas vu le résultat de notre prière au bout de la 6e fois que nous ne sommes pas déjà dans le plan de Dieu, mais c'est peut-être au bout de la 7e qu'on va voir la pluie tomber. Amen. Et nous en étions restés sur ce passage assez étonnant et remarquable où Élie, certes, va prier 7 fois, mais où son serviteur, rappelez-vous son serviteur, Élie est avec son serviteur, il est en train d'intercéder, puis il envoie son serviteur. Il dit 7 fois à son serviteur, pas tout de suite. Il dit 7 fois à son serviteur, monte. Et son serviteur va monter 7 fois en haut de la montagne pour voir si le nuage est là. Il va monter une première fois, rien, il va redescendre. Il va monter une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. 7e fois. Et au bout de la 7e fois, ce serviteur va voir un nuage. C'est extraordinaire. Je me suis mis à la place de cet homme qui, après 3 ans de sécheresse, va voir enfin ce nuage. Peut-être qu'il était en haut de la montagne en train de sauter, en train de dire « Alléluia, gloire à Dieu, voici la pluie, elle arrive. Dieu a envoyé son nuage. Nous allons être arrosés des bénédictions de Dieu. Plus que nous attendons. » Et j'imagine ce serviteur enthousiaste, en train de descendre, dévaler la pente, parce qu'il est monté au sommet pour voir, hein. Il descend la pente pour rejoindre Élie, il la court, il arrive devant son maître, et il dit à Élie, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer, et qui est comme la pomme de la main d'un homme. » Où est l'enthousiasme? Parce que, moi, j'aurais pu mettre un alléluia derrière, hein, comprenez. Oh, Dieu a répondu à nos prières. Non, il est sobre. Même, si on prend le texte, un petit nuage, puis comme si ça ne suffisait pas, bah c'est comme la pomme d'une main d'un homme. Et là, je me dis, mais où est passé l'enthousiasme de cet homme? Où est passée la joie débordante qui aurait dû y avoir dans son cœur? Parce que 3 ans sans voir rien, sans voir de pluie, sans voir quoi que ce soit, qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet homme? Parce que finalement, Dieu est en train de répondre à la prière, mais lui, visiblement, il est assez sceptique. Non? Et je le comprends. Parce que quand lui monte au sommet de la montagne, vous savez ce qu'il s'attend à voir? Il s'attend à voir ça. Et finalement, voici ce que Dieu va lui donner. C'est pas vraiment ça, c'est plutôt ça. Il faut avouer que des fois, les réponses de Dieu sont assez déconcertantes. On s'attend à voir quelque chose, et puis finalement, Dieu nous montre, on n'est pas si loin que ça, mais quand même. Et je me dis, finalement, dans le discours de cet homme, bah oui, il voit un petit nuage qui s'élève de la mer, semblable ou comme une pomme de main d'homme. Et en fonction des traductions, vous allez voir, il vit un petit nuage comme la pomme de la main d'un homme. Je ne sais pas si vous avez vu un nuage de la taille d'une pomme de main dans le ciel. Il faut le voir, hein, déjà. Bah, lui, il l'a vu. Et quand j'entends cet homme décrire ce qu'il voit, parce qu'il aurait pu être un peu plus positif. Ça y est, Dieu a répondu. Non, je vois un petit nuage qui a la forme d'une pomme de main d'homme. Je ne le vois pas très optimiste. Je le vois peut-être, je le sens un peu sceptique, même pessimiste. Et dans son langage, j'ai vraiment l'impression d'entendre un Français parler. Oui, vous m'avez bien entendu. Quand j'entends cet homme parler, j'ai le sentiment que c'est un Français qui parle. Vous savez, selon des études très sérieuses, accomplies par des services qui sont très sérieux, des sociétés très sérieuses, la France est au dernier rang des pays les plus optimistes. Autrement dit, nous sommes pessimistes. Et je me suis dit à un moment donné, j'ai trouvé un terme, j'ai trouvé ça super intéressant, je vais vous le partager. Nous sommes atteints de sinistrose aiguë chronique. Parce que chaque année, ça se renouvelle. Nous sommes toujours dans les derniers du classement. Et je me suis dit finalement, ben, il n'a peut-être pas si tort ce classement, parce que je me suis mis à la place de ce serviteur. Je serais monté au bout de la 7e fois en haut du sommet. J'aurais vu un petit nuage de la taille d'une main d'homme. Je me suis dit, je suis monté pour ça ? Non, mais tu rigoles ou quoi ? Et peut-être à la limite, je vais vous dire une pomme de main d'homme. Imaginez le ciel bleu et puis vous voyez un petit nuage de la taille d'une main d'homme. J'aurais... Même à la limite, je me suis dit, mais bon, franchement, c'est insignifiant. Et j'en serais probablement, mais je me suis fait la réflexion, mais j'en serais venu à être méprisant par rapport à ça, au point de redescendre et dire à Élie, au bout de la 7e fois, il n'y a vraiment rien à voir. C'est vraiment pas la peine. Réfléchissez à ça. Parce qu'en fin de compte, Dieu souvent se manifeste de la façon suivante. Dieu est très déconcertant dans sa façon de fonctionner avec nous. Et par moments, alors qu'on attend les gros cumulonimbus, Dieu commence par un nuage tout petit, ayant la taille d'une pomme de main d'homme. Et là, j'ai vu quelque chose d'important dans nos vies spirituelles. Et alors que nous sommes en début d'année, il y a peut-être des bonnes résolutions qui doivent être prises. Mais c'est celle de combattre en nous la sinistrose chronique aiguë. Nous sourions, mais comprenez ce qui est en train de se jouer. Dieu a répondu à son peuple. Et ce serviteur voit le nuage sans en discerner la volonté de Dieu. C'est tragique. Parce que par moments, nous attendons des réponses de la part de Dieu. Dieu nous les envoie. Sommes-nous capables de voir la réponse de Dieu là-dedans ? Par moments tellement pessimiste par rapport à ce que nous vivons, tellement pessimiste par rapport à ce que nous avons vécu, tellement par moments pessimiste par rapport à ce qu'on nous a fait subir. Parce que si par moments nous sommes méprisants par rapport aux petits nuages que Dieu élève dans nos vies, par rapport à ces pommes de main que Dieu élève par moments, c'est nous qui avons été méprisés. Autant nous sommes en mesure de mépriser, autant nous sommes en mesure de mépriser, mais autant nous avons aussi été méprisés. Quand à un moment donné, poussés par l'Esprit de Dieu, nous avons levé la paume de nos mains et nous avons décidé de relever les défis pour cette génération, pour la gloire de Dieu. Parce que la sinistrose, elle est contagieuse. Parce que quand on a été méprisé, à un moment donné, nous devenons méprisants. Ouais. Et c'est en ça que je voudrais nous encourager en ce début d'année à être des fils de Barnabas. Des fils d'encouragement. Des gens qui édifient. Pour que quand Dieu, peut-être au milieu de nous, lèvera des mains, et comprenez l'image des paumes de main vers le ciel en disant « Seigneur, nous voulons relever le défi de cette génération qui se perd. Nous ne soyons pas méprisants, mais qu'au contraire, nous soyons encourageants. Nous soyons des femmes et des hommes et des femmes capables de discerner les nuages que Dieu envoie dans cette génération pour la sauver, pour la secourir. Ne soyons pas méprisants si nous considérons peut-être l'œuvre insignifiante, si nous considérons la main comme insignifiante, si nous considérons la personne qui la lève comme insignifiante. » Parce que par moment, derrière ces mains qui se lèvent, il y a pour un moment le nuage que Dieu a envoyé pour une pluie abondante pour cette génération. Vous me suivez toujours ? Amen. Si j'ai un vœu à formuler de tout mon cœur pour cette année, et si j'ai une prière à faire monter vers l'Éternel, c'est d'être celui qui encourage au lieu d'être celui qui décourage. C'est d'être celui qui va voir dans les mains qui se lève pour cette génération, pour relever les défis de cette génération, le plan de Dieu. Aussi, je veux être un encouragement pour ces mains qui se lèvent, au lieu d'être celui qui, par moments, est pessimiste, méprisant. Parce qu'au lieu de voir le nuage que Dieu envoie, je vois par moments le petit nuage, semblable à la main d'un homme qui se lève. Je vois le nuage de Dieu. Et autant, peut-être, tu as été découragé, méprisé dans ce que Dieu a mis sur ton cœur. Autant ce matin, je veux t'encourager à persévérer. Qui sait s'il n'y a pas le nuage de Dieu pour cette génération ? Qui sait s'il n'y a pas derrière cette main que tu as levée le fruit, la pluie que Dieu a préparée pour notre génération ? Et de l'autre côté, si toi tu vois des mains te lever, ne sois pas comme le serviteur qui voit cette main comme une main d'un homme ou qui voit comme ce petit nuage insignifiant. Sois celui qui discerne la main de Dieu qui se lève pour cette génération. Alléluia. Vaincre la sinistrose. Nous avons vu les choses en fonction de ce que regardait le serviteur. Et c'est intéressant de se rendre compte que finalement le serviteur avait un regard particulier sur ce nuage. Mais quand on regarde Élie, quand Élie porte ou entend le messager, le serviteur revenir à lui, et ce serviteur lui dit, voilà, enfin oui, il y a un petit nuage qui s'élève de la mer, semblable à une paume de main d'homme. Élie ne voit pas un petit nuage, Élie ne voit pas une paume de main. Qu'est-ce qu'Élie voit ? Il voit la réponse de Dieu. Et c'est en ça que je trouve que Élie a un regard extraordinaire. C'est un homme de Dieu, c'est un homme rempli du Saint-Esprit. Et je me dis, Seigneur, je voudrais avoir ce regard sur les choses. Parce que Élie a vu la réponse de Dieu. Mais le point particulier, c'est ça. Regardez bien. Il va voir la réponse de Dieu, il va voir la réponse à sa prière sans pour autant être la pluie. Le petit nuage s'élève, Élie comprend que c'est la réponse de Dieu. Pour autant, et je vais vous poser la question, est-ce que le petit nuage, c'est la pluie ? Pas tout à fait quand même. Moi, j'aurais été à la place d'Élie. J'aurais continué à intercéder un bon moment. Merci Seigneur, le petit nuage se lève, mais ce n'est pas encore la pluie. Alors intercédons un peu plus, histoire que le nuage grossisse et vienne à pleuvoir. Pas, vous n'auriez pas fait ça, vous ? Moi, j'aurais fait ça. J'aurais vu le nuage, j'aurais dit « Ah, merci Seigneur, amen ». Qu'est-ce que fait Élie ? Il entend son serviteur lui dire « Il y a un petit nuage minuscule de la pomme, de la taille de la pomme d'un homme. » Qu'est-ce que fait Élie ? Il s'arrête de prier. Élie, à ce moment-là, il est convaincu que Dieu a répondu à sa prière. Pourtant, ce nuage, ce n'est pas encore la pluie. Ouais. Mais vous savez, le fait qu'Élie voit dans ce petit nuage la réponse de Dieu, ça va changer tout son état d'esprit. Ça va changer toute sa façon de voir. Il va se lancer dans un autre projet. Il va se lancer dans une nouvelle saison. Ouais. Comprenez, Élie est en train d'intercéder depuis un bon moment, plusieurs heures, face contre terre, tête entre ses genoux. Waouh, quand il a entendu ce serviteur arriver pour lui, c'est la délivrance. Ouh. Parce que c'est un combat spirituel, la prière. Oh certes, on peut aimer la prière, et j'aime la prière. Mais il y a aussi un combat qui est derrière. Et vous savez quoi, c'est libérateur quand Dieu nous dit « Ça y est, j'ai répondu à ta prière ». Or, par moment, mes amis, alors que Dieu répond à notre prière, nous, on est encore en train d'intercéder pour voir la pluie arriver. Et Dieu nous dit « Hé, ça y est, c'est fait, arrête-toi ». Hein ? Élie a vu la réponse de Dieu sans pour autant être la pluie. Pas si évident que ça. Je vais vous prendre un autre exemple que je trouve juste extraordinaire. Siméon, Luc chapitre 2. Siméon était un homme extraordinaire. Dans un contexte tellement particulier, Siméon sort de près de 400 ans d'obscurantisme religieux. Et Siméon, il nous a dit que l'Esprit de Dieu était sur lui. C'est extraordinaire. Et alors que l'Esprit de Dieu est sur lui, l'Esprit lui dit que il ne quitterait point ce monde sans avoir vu le Sauveur d'Israël, sans avoir vu le Christ, le Messie. Alors Siméon, un jour, alors qu'il est, il est âgé, poussé par l'Esprit, c'est ce que nous dit le texte, poussé par l'Esprit, Siméon va aller au temple. Et alors, lorsqu'il vient au temple, il y a Joseph et Marie et un bébé, un petit nuage ridicule, insignifiant, ouais, rejeté des hommes, né dans une... dans une crèche au milieu des bœufs et des ânes, trouvant pas de refuge, un petit nuage insignifiant. Qu'est-ce que fait Siméon ? Il prend cet enfant. Et là, le Saint-Esprit lui dit, voilà le Sauveur de l'humanité. Vous auriez vu, vous, le Sauveur de l'humanité ? Un petit nuage insignifiant. Et vous savez, ça va conditionner toute la réaction de Siméon, parce que Siméon va comprendre qu'il porte la promesse entre ses mains. Il va prier pour ce bébé et il va dire, ça y est, mes yeux ont vu le Messie, le Sauveur de l'humanité. Quoi ? Il faut lui donner le biberon, là. Lui ! Et je trouve extraordinaire que cet homme de Dieu ait pu voir le petit nuage là où personne ne voyait rien. Même Joseph et Marie, ils sont comme... Qu'est-ce qu'il raconte, Siméon ? Oui, la révélation, la compréhension et la vision du petit nuage. J'en viens à mon point parce que c'est juste essentiel de comprendre que Dieu va lever des petits nuages. Et mes amis, nous sommes appelés à les discerner. Élie va discerner le bruit, rappelez-vous. Il va comprendre le bruit, mais il va aussi réaliser et discerner le petit nuage qui est en train de se lever pour sa génération. Et je prie pour que nos yeux soient exercés, et je prie pour que la révélation vienne sur notre regard sur les choses. Je prie pour que Dieu nous montre, parce que je veux voir le petit nuage s'élever. Si j'entends un bruit, moi, j'attends le petit nuage. Peut-être qu'il est déjà là, et je prie pour que Dieu nous en donne la révélation, parce que la difficulté du petit nuage, c'est que le petit nuage est la réponse, mais pour autant ce n'est pas forcément la pluie, en tout cas pas de suite, et c'est ça toute la difficulté. C'est en ça que le peuple de Dieu a besoin d'avoir des yeux exercés pour discerner et voir. Et ma prière, c'est comme un second vœu pour cette année. Seigneur, je veux voir. Je veux discerner le petit nuage. Siméon l'a vu, Élie l'a vu. Allons-nous le voir ? Parce que dans la vie d'Élie, le fait de discerner le petit nuage, ça va enclencher tout un tas de choses. Comme la première fois, Élie a discerné le bruit, ça a enclenché des tas de choses. Mais quand Élie va voir le petit nuage, ça va enclencher autre chose. Dans son cœur, il a la réponse à la prière. Aussi, Élie se positionne, non plus dans une attente, mais il se projette dans l'avenir, il se projette en avant. Aussi, il dit à Akab, Akab, c'est mon deuxième point, il va dire, attelle ton char et descends. Il est plus temps maintenant d'être dans l'attente de quelque chose. Il est plus temps de se nourrir. Il est plus temps de prendre des forces. Il faut que tu descends de la montagne maintenant, Akab. Il faut que tu te mettes en mouvement parce que la pluie arrive. Il y a comme une urgence dans le message d'Élie. Il sait maintenant qu'il a entendu un bruit, certes, mais maintenant qu'il a vu le petit nuage, la pluie est en route, la pluie va arriver. Aussi, il y a urgence. Et le Saint-Esprit parle au nom d'Élie pour nous dans nos vies. Et il dit, mais maintenant, il est temps de t'activer, il est temps de rentrer dans une nouvelle dimension, parce que le nuage est là. Aussi, active-toi, mets-toi en mouvement, attelle ton char, descends la montagne. Il y a une image juste extraordinaire, je voudrais vous la partager. Quand Pierre, Jacques et Jean sont sur la montagne de la transfiguration, Jésus, il l'a transformé à un moment donné, Pierre va dire, ah ben on est bien ici, oh, fantastique. Jusqu'au moment où Jésus va dire, non, maintenant il faut qu'on redescende les amis, on ne peut pas s'installer en haut de la montagne. Et moi je retrouve le même mot descendre, parce que sur cette montagne, ils ont vu la gloire de Dieu. Sur le mont Carmel, ils ont vu le feu descendre, ils ont vu l'autel consumé, ils ont vu la gloire de Dieu. Mais pour autant, l'appel de Dieu n'est pas sur la montagne, elle est dans la vallée. Parce que sur la montagne, c'est une terre qui n'est pas fertile, la vallée de Jisréel. Parce que c'est là qu'Akab devait aller. Dans la vallée de Jisréel, c'est une des plaines les plus fertiles d'Israël. C'est là que Dieu nous attend. Si tu restes sur la montagne, le fruit ne poussera pas. Et par moments, on rentre dans nos églises, on rentre dans quelque chose de confortable. Vous savez, il y a une chose que je comprends de plus en plus, quand Dieu va envoyer la pluie, mes amis, ça va déménager. Mais ça ne va pas que déménager à l'extérieur, ça va déménager ici. Ça va commencer par l'église. L'église va être bousculée. On attend la pluie, on prie après la pluie. Mais est-ce qu'on sera prêt à vivre la pluie? Parce que ce n'est pas une pluie qui va faire tomber, ce n'est pas une averse, c'est des torrents. Et c'est ça que Dieu est en train de dire à son serviteur. Il est en train de lui dire, reste pas sur la montagne, descends, t'es bien sur la montagne. C'est super confortable, tu vois la gloire de Dieu, tu manges, tu te nourris. Ah, oh, glorieux, descends. Parce que la bénédiction prendra forme dans la plaine. Vous savez, j'ai souvent pensé à un truc. Et si Noé avait commencé à construire l'arche quand il s'était mis à pleuvoir? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Genre, Seigneur, je vais attendre que ça tombe pour commencer à construire l'arche. Il y a eu un temps pour se préparer personnellement. Il y a un temps, et il va venir un temps où l'Église va devoir bâtir l'arche pour sauver ceux qui doivent être sauvés dans l'humanité.